1993. Sullivan. Sachez que je puis croire toute chose, pourvu qu'elle soit franchement incroyable. Oscar Wilde. 0. Une pluie torrentielle brûlante s'abat sur moi, avec une telle force qu'il me semble qu'on me plante des clous dans le crâne. L'air est saturé d'une vapeur équatoriale abrutissante qui tourbillonne autour de moi et maintient mes paupières agrafées. J'ai le nez bouché, je suffoque. Je tiens debout, mais presque contre ma volonté, dans un état proche de l'hypnose. Mes jambes flageolent et ne vont pas tarder à céder. Soudain, un cri effroyable déchire mes tympans. J'ouvre les yeux en sursaut. Je suis dans une cabine de douche, sous un jet d'eau puissant. 1. Debout, à côté de moi, une jeune femme nue, recouverte de savon et de shampoing, hurlait à s'en décrocher la mâchoire. Ses traits déformés étaient figés par la surprise et la frayeur. Je lui mis la main sur l'épaule dans un geste apaisant, mais avant que j'aie pu fournir la moindre explication, elle m'asséna un violent coup de poing sur le nez. Chancelant, je portais les mains à mon visage pour me protéger. Alors que je tentais de reprendre mon souffle, un deuxième coup m'atteignit en pleine poitrine et me fit trébucher sur le rebord en faïence de la cabine. J'essayais de me rattraper au rideau de douche, mais le sol était glissant et je m'étalais tête la première contre le lavabo. Terrorisée, la jeune femme sortit de la cabine, attrapa une serviette et jaillit hors de la salle de bain. Prostrée au sol, je l'entendis confusément qui donnait l'alerte à ses voisins. Les mots me parvinrent déformés, confus, mais je distinguais pourtant « Violeur ! Dans ma salle de bain, appelez la police !» Toujours plié en deux, sonné, immobile, je tentais d'essuyer l'eau qui ruisselait sur mes paupières. J'avais le nez en sang, j'étais hors d'haleine, comme si je venais de courir un marathon. Mon cerveau commandait de me relever, mais mes membres restaient paralysés. Je savais pourtant que j'étais en grand danger, j'avais retenu la leçon de la cathédrale Saint-Patrick. Il fallait à tout prix que j'évite la prison. Je rassemblai mes forces, parvins difficilement à me redresser, balayai la pièce du regard, me rapprochai d'un cadre vitré. J'ouvris la fenêtre à guillotine. Elle donnait sur une voie privée coincée entre deux immeubles. En penchant la tête, je distinguais plus loin une large avenue à quatre voies, rectiligne, mais pentue. Taxi jaune vif, enfilade de façade en briques brunes et en fonte, citerne sur les toits, ça ne faisait aucun doute. J'étais de nouveau à New York. Mais où ? Et surtout, quand ? Alors que des voix se faisaient plus pressantes dans l'appartement, j'enjambais le châssis de la fenêtre et agrippais l'escalier de secours en métal. Je dévalais tant bien que mal les marches jusqu'à la rue, choisis une direction au hasard et détalais aussi vite que mes muscles me le permirent. Mon regard accrocha les deux panneaux verts et blancs qui se chevauchaient à l'intersection des rues. Je me trouvais au croisement d'Amsterdam Avenue et de la 109e. Au nord-ouest de Manhattan, donc, dans le quartier étudiant de Morningside Heights. J'entendis une sirène de police qui s'approchait. Paniqué, je tournai brusquement à gauche pour quitter l'avenue et me réfugiai dans une contre-allée étroite, bordée d'arbustes. Coincé entre deux immeubles, je me collai contre le mur pour me planquer et pour récupérer de mes efforts. Je mouchais du sang dans la manche de ma chemise. Mon costume était trempé. Visiblement, je portais les mêmes vêtements que ceux que m'avait laissés Jeffrey Wexler. Coup d'œil machinal à mon poignet, j'avais toujours la montre de mon grand-père, la très chic Tank, qui indiquait un peu plus de 9h du matin. Mais de quel jour ? J'essayais de me concentrer. Mon dernier souvenir, la cage d'ascenseur de mon appartement, mes sacs de provisions sur le sol, la violente crise convulsive identique à celle que j'avais eue la première fois dans la cave du phare. J'éternuais. L'air était doux, le ciel bleu, le soleil déjà chaud. Malgré ça, je claquais des dents. Il me faut de nouvelles fringues. Je levai les yeux. Il y avait du linge pendu aux fenêtres. Sans doute pas les habits dont je rêvais, mais je n'étais pas vraiment en situation de faire le difficile. Je sautai sur un conteneur à déchets, puis escaladai la façade jusqu'à être en mesure d'atteindre les vêtements. J'attrapai ceux qui me tombaient sous la main et les enfilai. Un pantalon de toile, un maillot rayé des Yankees, un blouson en jean. Rien n'était parfaitement à ma taille. Le pantalon tire-bouchonnait sur les chevilles, la veste était trop cintrée. Mais au moins, j'étais au sec. Je récupérais les billets et les pièces de monnaie dans la poche de mon costume, puis jetais les habits mouillés dans la poubelle. Je rejoignis l'avenue et me fondis dans la foule. De nouveau, je fus pris de vertige, et mon estomac se souleva à m'en donner mal à la tête. Si je voulais pouvoir réfléchir, il fallait que je mange quelque chose. Je repérai un diner de l'autre côté de la rue, mais avant de rentrer dans le restaurant, je glissai deux quarters dans le distributeur automatique de journaux. Je regardai la date en haut de la manchette, tout en ayant peur de ce que j'allais y découvrir. Nous étions le mardi 14 septembre 1993. 2.
Voici vos œufs, vos toasts et votre café, monsieur.
La serveuse déposa une tasse et une assiette sur la table en formica et me gratifia d'un sourire avant de repartir derrière son comptoir. Tout en dévorant mon petit déjeuner, je parcourus la une du New York Times avec attention. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat scellent un accord de paix. Le président Clinton salue un courageux pari. L'article était illustré d'une photo aussi frappante qu'inattendue. Devant la Maison-Blanche, Bill Clinton, le sourire aux lèvres et les bras grands ouverts, se félicitait de la poignée de main entre, à sa droite, le premier ministre israélien et à sa gauche, le leader de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce geste symbolique et les déclarations des participants laissaient entrevoir l'espoir d'une paix prochaine entre les deux peuples ennemis. Mais étais-je dans la réalité ou dans la quatrième dimension? Je fis le point sur ma situation. Cette fois, 14 mois s'étaient écoulés depuis mes derniers souvenirs. Un nouveau saut dans le temps brutal et inexplicable. Une parenthèse démesurément longue. Bon sang, mais que m'arrive-t-il? Je sentais mes avant-bras et mes mains qui tremblaient. J'avais peur. J'étais terrorisé comme un gamin, persuadé qu'un monstre se cache sous son lit. Je savais que je vivais quelque chose de grave qui avait fait basculer ma vie hors des sentiers balisés. Je respirais à fond pour me calmer, comme je le conseillais parfois à mes patients. Je devais faire face, ne pas me laisser abattre. Mais vers qui me tourner? À qui demander de l'aide? La réponse ne fut pas longue à venir. Surtout pas à mon père, qui ne savait que me mentir. Une autre personne se dessinait dans mon esprit. Le seul homme encore en vie qui avait probablement subi ce qui était en train de m'arriver. Mon grand-père, Sullivan Costello. La serveuse fit le tour de toutes les tables pour s'assurer qu'aucune tasse à café ne restait vide. Je profitais de son passage pour lui demander un plan de la ville en lui promettant un généreux pourboire. Pendant qu'il était encore chaud, je pris quelques gorgées de café en repensant à ce que m'avait dit mon père. « Ton grand-père n'est pas mort. Sullivan est à New York. Il est interné dans un hôpital psychiatrique de Roosevelt Island. » Sur la carte que venait de m'apporter la serveuse, je visualisais la fine bande de terre au milieu de l'East River. Roosevelt Island était une île improbable, coincée entre Manhattan et le Queens. 3 kilomètres de long sur environ 200 mètres de large, où je n'avais jamais mis les pieds. Je me souvenais d'avoir lu un vieux polar qui évoquait la présence d'une maison d'arrêt sur l'île, mais elle avait dû fermer ses portes depuis longtemps. Peut-être pas. En tant qu'interne en médecine, je savais vaguement qu'il y avait 2 ou 3 centres hospitaliers encore actifs dans l'île, dont un hôpital psychiatrique tristement célèbre, le Blackwell Hospital, que tout le monde surnommait le Pentagone à cause de la forme de son bâtiment à 5 façades. C'était là que Sullivan devait être interné. La perspective de revoir mon grand-père me donnait non seulement un but, mais aussi un peu de courage. C'est là qu'il fallait que je me rende immédiatement. Mais me laisserait-on entrer? Oui, a priori, si je parvenais à prouver que j'étais l'un de ses descendants directs. Soudain, un doute me traversa. Mon portefeuille. Tout à l'heure, en vidant mes poches, j'avais bien récupéré de l'argent liquide, mais pas mon portefeuille qui contenait mes papiers d'identité. Paniqué, je payais mes consommations et retournais en courant dans la contre-allée. Le conteneur n'avait pas bougé. Je retrouvais la veste de costume et le pantalon que je fouillais méthodiquement. Rien. Merde! S'il y avait un peu de logique à la situation complètement irrationnelle que je vivais, mon portefeuille aurait dû rester dans mon costume. Je ne voulais pas croire qu'on me l'avait volé. Dans ce cas, le voleur aurait piqué en priorité le cash que j'avais dans les poches. J'ai dû le perdre. Je fis quelques pas pour rejoindre Amsterdam Avenue. Mon cerveau continuait à mouliner. J'ai dû le perdre dans la salle de bain. Mes pas me conduisirent au pied de l'immeuble d'où je m'étais enfui 1 heure plus tôt. L'endroit était calme, presque désert. aucune trace de la police ni d'une quelconque agitation. Je contournai la bâtisse, bien décidé à forcer ma chance. L'escalier de secours était replié, mais je parvins à l'atteindre en escaladant un muret. Je montai jusqu'à la fenêtre du troisième étage. On avait nettoyé les éclats de verre et un simple carré de carton bardé de bandes adhésives colmatait désormais la vitre brisée. Je le fis sauter sans effort, soulevai le châssis pour m'introduire dans la pièce. Pas de bruit. Pas de comité d'accueil. La fille avait posé la serpillière à la va-vite pour faire disparaître les taches de sang et la flotte. J'avançais à pas de loup sur le carrelage. À première vue, il n'y avait pas l'ombre de mon portefeuille. Frustré, je m'accroupis, regardais sous une commode brinque-ballante, puis sous une colonne de rangement en bois blanc sur les étagères de laquelle s'entassaient médicaments, produits de beauté, séchoirs, trousses de toilette. Et là, dans la poussière, j'aperçus mon étui en cuir craquelé qui avait dû glisser lorsque je gisais près du lavabo. Je tendis la main pour l'attraper, vérifiai qu'il contenait mes papiers d'identité, et poussai mon premier soupir de soulagement depuis longtemps. La sagesse aurait voulu que je rebrousse chemin, mais grisé par cette petite victoire et mis en confiance par le silence de la maison, je m'aventurai hors de la salle de bain. 3. Le logement était vide. C'était un petit appartement en désordre, mais à la décoration soignée. Sur le comptoir du bar de la minuscule cuisine, on trouvait un paquet de céréales entamées et une bouteille de yaourt à boire que l'occupante des lieux, sans doute partie précipitamment, avait oublié de remettre à sa place. Je picorais quelques grains de blé soufflé, puis rangeais le carton sur une étagère et le laitage dans le frigo. Quelque chose me retenait ici. Le désir de comprendre pourquoi j'avais justement repris conscience dans cet appartement. Je furetais dans le salon. Deux étagères étroites débordaient de livres. Posés en pile près du magnétoscope, des dizaines de VHS, des épisodes de Seinfeld et de Twin Peaks, des films d'auteurs, Paris, Texas de Wim Wenders, Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh, Mean Streets de Martin Scorsese, Une journée particulière d'Ettore Scola, Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, ainsi que La petite boutique des horreurs et une bonne partie de la filmographie de Meryl Streep. Choix de Sophie, La maîtresse du lieutenant français, Out of Africa. Au mur, des reproductions d'œuvres célèbres d'Andy Warhol, de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat. Sur une table basse, un paquet de cigarettes mentholées et un briquet I Love New York. Je m'assis sur le canapé au ressort grinçant et allumai une cigarette. Alors que j'exhalais ma première bouffée, je repensais au visage de cette jeune femme hurlant sous la douche. La terreur que j'y avais lue ne me laissait aucun doute. Elle avait peur parce qu'elle avait été surprise. De toute évidence, on ne se connaissait pas. J'avais dû surgir dans sa douche comme une sorte de Dr. Wu débauché. Un miaulement me fit tourner la tête. Un chat tigré aux yeux ronds et aux poils roux foncés venait de sauter sur la coudoir. En plissant les yeux, je distinguais une médaille autour de son cou, gravée du nom Remington. « Salut, toi !» Dès que j'essayais de le caresser, il fit un bond de côté et disparut aussi vite qu'il était venu. Je me levai pour explorer la dernière pièce de l'appartement. Une chambre au parquet en bois brut, meublée d'éléments hétéroclites. Un vieux lit en fer forgé, un bureau moderne noir, laqué, un lustre en cristal d'un autre siècle. À côté du lit, sur une table de chevet, des magazines Playbill sur des comédies musicales récentes, Le Masque et la Rose du Fantôme de l'Opéra, Les Yeux Félins de Katz, La Troupe Alignée de Chorus Line, plusieurs romans aux pages cornées, Une prière pour Owen, Beloved, Raphaël, Dernier jour. Scotché au mur, des photos de mon inconnu avec des tenues très différentes, allant de la robe de soirée jusqu'à des ensembles de lingerie très déshabillés. Des poses en couleur et en noir et blanc, avec autant de coiffures singulières. Cheveux détachés, chignons torsadés, queue de cheval, carré ondulé, boucles aériennes venant frôler ses épaules dénudées. La fille ne semblait pas être un mannequin professionnel, mais elle s'était sans doute constitué un bouc pour démarcher les agences. Punaisée au-dessus de la table de travail, je remarquai la photocopie d'un emploi du temps à l'en-tête de la Juilliard School, la célèbre école de spectacle. À côté se trouvait une fiche d'inscription au nom d'Elizabeth Ames. La jeune femme avait 20 ans et était en première année d'art dramatique. J'ouvris les tiroirs et parcourus sans vergogne tous les documents qui me tombaient sous la main. Des brouillons de lettres d'amour adressés à un certain David, des polaroïdes d'Elizabeth complètement nues, des poses prises à bout de bras, peut-être à l'intention de ce David, mais qu'elle avait finalement décidé de ne pas envoyer. Un autre emploi du temps concernant un job de serveuse au Frantic, un bar de l'East Side. Fixé à un panneau de Liège, je trouvais aussi des relevés bancaires faisant apparaître un découvert inquiétant, ainsi que plusieurs lettres de relance pour loyer impayé expédié par le propriétaire de l'appartement. Je restais encore quelques minutes dans la chambre, les yeux rivés au mur de photographie. Un cliché aimantait mon regard. On y voyait Elisabeth, un jour de neige, assise sur le dossier d'un banc en bois à côté d'un lampadaire de Central Park. Elle portait un bonnet de laine, un manteau trop grand pour elle, et des bottes en mouton retourné. C'était la photo la moins sexy, mais aussi la seule sur laquelle elle souriait. Au moment de quitter l'appartement, c'est celle-ci que je décrochais et que je mis dans ma poche.